الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nous avions vu la dernière fois, mes chers frères, que Allah subhanahu wa ta'ala montrait quelle était la voie qui amène vers lui, cette voie difficile qui a été qualifiée dans le sourate La uqsimu bihadha al-balad, comme par le terme al-aqaba. On avait vu que al-aqaba c'est quoi? Al-aqaba c'est une petite route sinueuse et difficile d'accès dans la montagne. Et les commentateurs du Coran disent que la métaphore était faite avec ce terme précis al-aqaba parce que pour arriver auprès d'Allah, pour avoir le contentement total d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un effort énorme à faire sur notre propre personne. Il y a notre nafs à maîtriser, il y a les pièges de shaitan à contourner, et il y a surtout une quantité de bonnes actions, pas quantitatif, une panel de bonnes actions que le musulman doit apporter pour qu'il soit accepté totalement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la fin de la uqsimu, de les versets qu'on a cités et qu'on avait déjà commencé, la dernière fois, Allah ta'ala explique, on avait déjà vu les quelques termes. Et qui te dira que la voie de vie, c'est délier, d'affranchir un esclave, ça on avait expliqué, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ça c'est le deuxième point, ou un pauvre dans le dénuement, c'est le troisième point, et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde, ceux-là sont les gens de la droite, Ashabul Maymana. Alors on va essayer d'expliquer ça, bi-idhnillah. On avait déjà vu que parmi les qualités du vrai mu'min, le musulman complet, il y a la recette du musulman complet qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des actes d'adoration, ce qu'on appelle le culte, ubudiyya, salat, zakat, somme, hajj, ramadan, tilawat al-Qur'an, zikrullah, mais également par d'autres catégories d'actions qui mettent le musulman en rapport avec d'autres personnes. Et une autre catégorie d'action encore qui met le musulman face à lui-même. Là, il n'est plus face à Allah. La salat, la zakat, ça c'est face à Allah. Ce que je donne pour Allah. Ce que je fais avec mon corps pour Allah. Il y a d'autres catégories comme affranchir un esclave ou alors agir bien envers un pauvre ou un orphelin. Ça, on va voir. Ça, c'est également, bon, ça c'est des ibadat, mais c'est en relation avec les gens. Aider un pauvre, aider un orphelin, affranchir un esclave. Et puis il y a la troisième catégorie, c'est lorsqu'on se retrouve face à soi-même. C'est la patience, l'endurance et les difficultés. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes... Vous pouvez venir, vous avez les loges présidentielles, c'est mashallah. D'accord? Donc là, on est face à une autre catégorie de bonne action. Il y a le ibadat, le culte. Il y a le ibadat en rapport avec les gens, l'esclave, l'orphelin, le pauvre. Et il y a l'autre catégorie qui est le plus dur. Ne croyons pas que c'est le plus facile, puisque ça me concerne moi. Le travail à faire sur soi-même. Comment comprendre les choses, comment assimiler les difficultés, et comment s'en joindre mutuellement dans ces choses-là. Alors, on avait déjà vu le fait de la franchise d'esclaves, ça, on a vu que, bon, ce n'est pas trop d'actualité. On avait vu également le deuxième point, « Aw it'aamun fi yawmin dhi matraba », donner à manger dans un jour de difficulté, et ça, on avait vu que plus la situation est difficile, plus l'acte sera valeureux. Donner 10 euros à un pauvre quand on a 1 million en compte, d'accord, c'est facile. Mais donner 10 euros quand on est le 27 du mois et que la CAF est en grève et que le salaire n'est pas encore tombé et que madame a déjà donné une liste de courses dans la poche et que vous n'avez que 40 euros, ça c'est fort. Ça c'est apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu que d'une manière générale, Allah Ta'ala, il distingue l'action qui a été faite dans un contexte difficile de l'action qui a été faite dans un contexte favorable. Ça ne veut pas dire que l'action faite dans un contexte favorable n'aura pas de valeur. mais plus il y a difficulté, ça c'est une règle à retenir, plus il y a difficulté, plus il y a des récompenses. Et on a vu que dans une période de crise comme on vit en ce moment, quelqu'un qui donne à chef 50 euros pour masjid, dans une période difficile comme ça, c'est machallah, chef est venu, il a jugé ce que le programme est intéressant, il a dit c'est bon, on vote, et il est venu. Donc donner dans un moment difficile comme maintenant, c'est quelque chose de valeureux, beaucoup plus apprécié. D'ailleurs, vous savez, quand Allah distingue les muhajirins des ansars, hein, ceux qui ont fait le VSC, ceux qui ont fait qui ont émigré, qui ont fait les efforts avant. Jamais le muhajir, je dis muhajir ansar, ceux qui ont embrassé l'islam à la période Makki et ceux qui ont embrassé l'islam dans les dernières années. Pas pareil, même s'ils feront tous les efforts qu'ils pourront faire, ceux qui ont embrassé l'islam au début, qui ont fait le hijra, qui ont fait mujahada avec leur corps, avec leur nafs, avec leur bien, leur famille, leur rang est supérieur. Parce qu'il y a eu difficulté, il y a eu endurance pour amener iman. Voyez, de la même manière, dans ce verset, donner à manger dans fiyomin zi masraba, dans un jour donc difficile, hein, le terme exact qu'on avait dit tout à l'heure, fiyomin zi masraba, c'était, parce qu'on n'a pas le droit d'inventer des termes de traduction, hein, et nourrir en un jour de famine, où il n'y a pas assez de manger pour les gens, ou pour nous-mêmes, on craint qu'on n'a pas assez de manger. Et ça, c'est un peu comme la crise que nous vivons, hein, et qui va être de plus en plus difficile, qui va être pire en 2009 apparemment. Là, continuer à faire preuve de largesse de le chemin d'Allah, c'est quelque chose d'apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va commencer aujourd'hui, yatiman za maqraba. Yatiman za maqraba, c'est donc, allez, c'est faire ihsan, agir bien envers un orphelin avec qui on a un lien de parenté. Et là également, le prophète sallam dit dans cet hadith que la sadaqa qui a été donnée à un proche est doublement récompensée. Quand on parle de sadaqa, on ne parle pas de zakat, parce que zakat, il y a certains masla, pas d'ascendant, pas de descendant, mais c'est autre chose. Aider un proche financièrement, on est doublement récompensé par rapport au fait d'aider quelqu'un d'autre. Tout d'abord, il y a les récompenses de la sadaqa, et en plus, il y a la récompense de raffermir les liens entre ce membre de la famille, ce cousin, ce tonton, ce neveu, avec vous. Hein, ça rejoint un peu le discours qu'on a fait aujourd'hui. Il y avait un hadith, une Kathé me citer, que je parle de le hadith, dans lequel François m'expliquait les doubles récompenses qu'on vient de dire pour la personne qui aide son prochain, la personne qui est proche, qui aide quelqu'un, qui aide Jésus. Et maintenant, parfois, ça, on a déjà constaté, il y a des gens qui sont dans le besoin, mais par rapport au fait que vous êtes proche d'eux, vous êtes membre de la famille, ils ont honte, ils ne veulent pas accepter votre aide. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que la sincérité joue. Parce que, en général, hein, quand on a donné quelque chose à quelqu'un, Shaitan, parfois, il fait naître un petit sentiment de supériorité dans votre cœur. C'est comme si, bon, ma fille de là-haut, le jeune demandait un service, il ne refuse pas. Ça, c'est horrible, ça. Hein, y a des gens, même parfois, vous avez besoin de quelque chose pour un projet religieux et tout, ils vous donnent, mais prochaine fois, quand ils demandent un affaire, loupe pas les. S'ils demandent un masla, ils doivent être prioritaires. Non! Quand on donne, on donne pour Allah. On ne regarde pas cette Moussa ben tel ou Hafiza ben tel ou Fitaza ben tel. On a donné pour une cause. Et on ne doit pas attendre de retour. Alors maintenant, dans le cas où on a un proche qu'on veut l'aider sans le vexer, on peut faire passer par quelqu'un. Un intermédiaire qui va lui donner cet apport financier, cette somme, ou alors des courses, des provisions, autre chose, pour ne pas vexer la personne. Et on aura en plus de cette récompense, ben, c'est la sadaqa qui a été donnée, comme on dit, main droite, que la main gauche ne sait pas. Donc on sera, Inch'Allah, triplement récompensé. Donc ça c'est des notions assez simples, non? Yatiman za maqraba. Et petite définition, dans la société occidentale, l'orphelin c'est celui qui a perdu ses parents. Mais dans l'islam, un orphelin c'est celui qui a perdu son père. Quelqu'un qui a perdu sa mère, même, et bien sûr qui a perdu son père, et que la personne n'est pas encore balée. L'enfant est mis devant. Quelqu'un a 50 ans, il a perdu son papa, il est orphelin. D'accord, il ne mérite pas de l'aide, il mérite des encouragements, mais pas un apport financier. Alors, même un enfant de 6 ans, c'est tant qu'il a perdu sa mère, mais dont le père est toujours vivant, sur le plan chariat, il ne sera pas appelé yatim. Et ça me fait bien comprendre quel est le rôle, quelle est la position de chacun des deux parents par rapport à l'enfant. Dans l'islam, c'est clair, celui qui amène la subsistance pour l'enfant, c'est le père. La maman, c'est tarbiya. La maman, elle est à la maison pour l'éducation de l'enfant. Et le père, c'est celui qui transpire, qui va travailler. Allez, on va dire qu'il va chasser, qu'il va faire ce qu'il veut, il va travailler. Il va ramener le rosi, le père quotidien, dans la maison. Là, on définit bien les rôles dans l'islam. Un mari n'a nullement le droit d'obliger sa femme de travailler. Un mari n'a nullement le droit, et c'est ce qu'on constate malheureusement de nos jours, de dire à sa femme, pas souci de le loyer de la maison. Voilà, c'est bon, mi paye courant, on paye de l'eau. Et de l'eau, c'est 90 euros par trimestre, je peux bien faire des fois, du moment, il y a un peu. D'accord? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire à notre femme, à notre épouse, bon, viens acheter la viande, ou acheter les conserves, ou viens acheter les fruits et légumes. Et ça, je vous assure, c'est un problème qui revient. Il y a des gens qui nous disent, on ne va pas citer, mais il y a des gens qui disent que voilà, mon mari oblige à moins partir de loyer, il faut qu'il travaille pour amener l'argent. Non! C'est le mari qui amène l'argent, et la femme, elle est là pour assurer l'éducation. Vous voyez? Donc, à travers la définition de l'orphelin dans l'islam, on voit la répartition des rôles, dans la charia. Vous voyez? Yatiman za maqraba, ou miskinan za matraba. Alors, miskinan za matraba, un pauvre, la définition exacte, subhanallah, un pauvre, matraba, ça vient de turab, de la terre, c'est-à-dire, un pauvre qui n'a rien de ses matières, que de la terre de ses maisons, quelqu'un qui est démuni, voyez, ou un pauvre dans le dénuement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi? C'est qui sont les prioritaires parmi les personnes en difficulté? Plus la personne est démunie, ben, elle sera prioritaire pour donner la sadaqa. Maintenant, une question délicate. On va essayer de contenir la question. Est-ce qu'on peut aider un pauvre qui donne l'impression par rapport à son apparence qu'il a certaines facilités? De nos jours, il y a parfois des discours qui tendent un peu vers des mouvements qu'on n'aime pas trop, qui disent, oui, mais il n'y a pas besoin de donner un tel affaire, ou ça son cas, la télé, ou ça son gaz. Enfin, regardez, le prophète dit dans le hadith que si quelqu'un vous demande, même c'est le hadith qui dit que même si vous voyez deux bracelets en or de ses bras, donnez. On ne parle pas de zakat, hein? Non, zakat, ça va t'acheter. Zakat, faut regarder, et s'il ne méritait pas, on a donné, c'est un gros problème. Mais quelqu'un vous demande, j'ai telle difficulté, j'ai besoin d'aide, même si vous voyez deux anneaux en or, vous n'avez pas dit, ben, vendez des anneaux, et puis vous va gagner. Non. Même si vous voyez certains signes extérieurs de richesse, donnez. Il faut quand même donner. D'accord? Parce que dans un autre hadith, c'est pas le même, un autre hadith, le prophète m'a dit que, j'ai pas le hadith exact, mais le sens, le prophète m'a dit que, Allah Ta'ala parfois envoie des gens qui sont ni ins, ni djinn, qui viennent vous demander pour vous éprouver. Et Allah Ta'ala voit votre réaction. Bien que Allah envoie des gens, c'est pas des êtres humains, c'est pas des djinns, mais c'est quoi alors? C'est des malaïkas certainement. Allah, c'est pas précisé le hadith, mais je ne connais pas de type de makhlouqat. Allah Ta'ala envoie ces gens, peut-être quelqu'un qu'on n'a jamais vu, que vous ne verrez plus jamais, il vient dans le magasin, monsieur, donne un petit monnaie, il a telle difficulté. Allah Ta'ala veut juste voir ce qu'il y a de votre cœur. Allah, il sait déjà. Allah, il veut voir votre réaction. Est-ce que vous allez donner, oui ou non? Ça, c'est quoi? Quelqu'un qui vient vous demander comme ça, c'est quoi? Ça, c'est une ouverture de la part d'Allah. C'est Allah qui ouvre une porte de bienfait pour vous, et si vous saisissez votre occasion, cette chance, Allah Ta'ala vous ouvrira d'autres portes, vous accordera beaucoup de khayrat, la baraka de vos biens, et beaucoup de futuhat, beaucoup de tawfiq, d'acceptation dans le dîn, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Mais si dès le départ on a fermé la porte, on n'a pas la crise, il y a une faille, mais donne déjà ma cible. Mais donne déjà ma cible, c'est fini, mais donne ma cible, c'est suffisant. Non. Quelqu'un vous demande, le prophète n'a jamais refusé. Le prophète ne refusait jamais une personne qui demandait s'il avait la possibilité. C'est cette histoire, on va pas rentrer des détails. Aïcha, qui a reçu un cabri, là, Aïcha, une des épouses du prophète avait reçu un cabri, la viande donc, et il y avait un pauvre qui est venu, il a donné un morceau, un autre pauvre, donné, et à la fin il restait un petit morceau de viande. Le prophète m'a rentré et dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? Vous savez, on avait déjà dit, ça, le prophète il est rentré, mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Parfois il n'y avait rien aussi. Il a dit, s'il n'y avait rien, le prophète me dit, il n'est pas, subhanallah. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, Ashraf al-Makhnouqat, il rentre chez lui, il n'y a rien à manger. Parfois, il dit, je fais une diatrosa. Il rentre, il dit à son épouse, hein, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, oui. Elle dit, il reste ça. C'est Aïcha, ça? Aïcha, il explique, voilà, on avait un animal entier, et puis des gens, ils ont venu, j'ai donné. Il ne reste plus que ça. Le poisson dit, non, ne dis pas, il ne reste plus que ça. Comment avait-il dit, il ne reste plus que ça? Tout est resté sauf ça. Le terme en arabe, c'est beaucoup plus joli. C'est un mot. En fait, tout est resté sauf ça. Elle dit, tout ce que tu as donné en sadaqa, ça c'est baqiya, c'est salihat. Ça c'est de notre hasanat, de notre livre de compte, le jour de Qiyama. Ce qui est resté, c'est notre maruriyat, ce qui est nécessaire pour manger, puis ça c'est terminé, ça. Donc, notre manière de voir les choses, subhanallah. Allah nous accepte, inshallah. Vous voyez? Miskina zama traba. Donc, Le prophète dit qu'Allah, il vous envoie parfois des gens juste pour vous tester, comme l'histoire du chauve, le lépreux avec la veuve. Ils avaient beaucoup de bienfaits de la part d'Allah, et puis avant ils étaient pauvres, ils étaient malades, Allah leur a donné la santé, et Allah leur a donné le bien. Et puis Allah envoie pour chacun de ces trois personnes, un ange pour chaque personne, il dit que je suis pauvre, aide-moi. Il y en a deux qui ont fait preuve de koufran, d'ingratitude. Je dis que cet argent, je l'ai eu à la sueur de mon front, ça. Il dit que si vous voulez, travaille, allez votre travail ou même, il ne donne pas ici. Vous voyez, Allah Ta'ala a repris le bienfait. Tandis que la veuve, il a reconnu que je n'avais rien, j'étais malade, Allah m'a donné la santé, et Allah m'a donné le bien, et donc il l'a donné. Parce que, il y a des gens parfois, et ça rejoint l'autre verset avant, parfois quand on a, même si avant on était pauvre, quand Allah il a ouvert les portes de Baraka, on a eu un travail, on a eu un poste supérieur, des bases de 800 euros, après on a eu un travail de 1200, après on a eu 2000 euros, après on a économisé, on a gagné, acheté un petit cas, on a gagné un loyer, etc. On commence à avoir de l'argent, quelle réaction on adopte, le verset de lequel il dit, ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. À un moment donné, on se sent tellement poussé, les uns les poussent, je deviens important, j'ai une certaine autorité à la société, c'est comme si on devient intouchable. Personne ne peut plus rien nous faire, ça c'est quand on a beaucoup de bienfaits. Mais ça, il faut faire très attention, parce qu'Allah Ta'ala observe notre réaction, et du jour au lendemain, Allah peut tout reprendre. La sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez également que quand quelqu'un, la personne a beaucoup de biens, et qu'elle donne ni zakat, ni sadaqa, ni panamaz, elle n'a pas de relation avec Dine, mais il gagne l'argent. Là, je dis, bon, il vient à manger. Moi, il me fait le Coran, il me fait Rosa, et je suis toujours pauvre. Lui, il ne fait pas rien, il est rempli d'argent. Quand Allah donne et que la personne reste de le péché, ça, Allah, il est en train d'enfoncer la personne par ses ni'amad. Et Allah, il peut un jour tout reprendre d'un coup également. C'est du Coran. Subhanallah, qariyatan, afsaduha wa ja'alu a'izat. Enfin, il y avait un verset de lequel Allah explique que quand il veut, parfois, Allah, il peut abaisser un peuple comme ça en ouvrant par une khaira. Il donne. Après, quand Allah il prend directement. Donc, ça c'est miskinan za matraba. On essaie de rester pour terminer le surat ce soir. Alors là, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Dans le reste du verset, et ça c'est extrêmement important. Cela montre la polyvalence des ibadats de l'islam. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus de la personne qui libère les esclaves, qui agit bien envers les orphelins, qui agit bien envers les pauvres, Allah Ta'ala dit qu'avec ça, c'est quelqu'un qui a iman. Avec ça, c'est quelqu'un qui a iman. Et lorsqu'on parle de iman, c'est de le Coran, il n'y a pas un verset où on dit « Inna alladina amanu » qui n'est pas immédiatement suivi de « Wa amilu salihat ». À chaque fois qu'il y a « Inna alladina amanu », il y a obligatoirement « Wa amilu salihat ». Donc en plus d'être bienfaisant envers les gens, d'avoir un grand cœur, n'oublions pas les bases. Les bases, c'est iman. Et quand on parle de iman, c'est les six piliers de la foi, sahih, le aqidah, tawhid, sahih, comme Allah Ta'ala le demande de le Coran, et comme Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné. Et là, on peut se poser une question, on va pas polémiquer. Est-ce que les actions d'une personne dont le iman n'est pas correct sont acceptées? Est-ce que les actions d'une personne qui n'a pas aqidah sahih, ces actions sont-ils acceptées? Wallahu a'lam. Allah seul le sait. Quelqu'un qui injure les sahaba, quelqu'un qui considère tel sahaba comme kafir, est-ce que ce qu'ils font s'accepte par Allah? Allah seul le sait. Donc, ce makana minal, en plus de faire ça, que la personne est iman. Taïf? Wa amil, wa tawasaw bil sabri, wa tawasaw bil marhama. Alors, en plus d'être bienfaisant vers les gens, en plus d'avoir le iman comme Allah l'a demandé, cette personne, wa tawasaw bil sabri, s'encourage donc mutuellement dans la patience, la traduction, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. C'est-à-dire que cette personne, en plus d'avoir les qualités qu'on a déjà citées, c'est une personne patiente. Et quand on parle du mot sobre, c'est d'une manière générale. Les trois catégories de sobre qu'on a déjà expliquées, on ne va pas rappeler, c'est la patience dans l'obéissance d'Allah. Les actions sont dures à accomplir, fajr, le difficile, je le fais quand même. La patience face au péché, le péché s'entend, j'ai envie de faire le haram, c'est accessible, personne ne me voit, je ne le fais pas. J'écrase mon nef, je ne le fais pas. C'est comme ça qu'on monte la petite montagne à l'Aqaba pour arriver près d'Allah Ta'ala. Et le troisième, ça va, la troisième catégorie de patience qui est plus connue, patience face aux épreuves. Et le Moufassil dit qu'on retrouve ces trois catégories de patience dans la vie de chaque anbiya, dans la vie de chaque prophète, ils ont fait preuve d'endurance. Obéis à Allah malgré les difficultés. Obéis à Allah malgré les difficultés. C'est à quoi, bien sûr, les anbiya ne faisaient pas de péché. Patience face au péché, ne pas faire le péché. Et résistance, faire preuve de sabr face aux difficultés. Un exemple simple, face à Salam, Taïf, on connaît tous la bataille de Uhud, qui était un des moments les plus durs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également lorsque les Quraysh, certains mécréants, ils ont versé les incessants chameaux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la salat près de la Kaaba, lorsque le prophète a été ensorcelé, ça également lorsque le prophète a été victime de l'empoisonnement par cette femme et puis il a pu, alhamdoulilah, la protéger. Donc, notre prophète, il a fait preuve d'endurance, dans l'obéissance, face au haram, bien sûr, ça c'est la question ne se pose même pas, et surtout, et également, preuve de patience dans les difficultés. Parce qu'on ne sera jamais musulman, jamais Allah n'accorde iman et futuhad, sans être éprouvé. Quand on dit, ahsiban al-islami, ahsiban nas, en yusraku wa yaqulu, amanna. Wa hum la yuftanu. Obligatoirement, quand quelqu'un porte iman, la personne est éprouvée. Quand, souvent les gens, ils voient ça dans le sens inverse, oui, mais ni les kafirs, ni n'apprennent rien et tout, mais ils vivent heureux, il n'y a pas de problème, ils rentrent, ils sortent, ils ont une vie facile, et moi j'ai des difficultés, toujours des épreuves, parce qu'Allah Ta'ala éprouve les gens qu'il aime. Allah Ta'ala éprouve les gens qu'il aime pour regarder notre réaction, et en fonction de notre réaction, de nous donner plus. Et ce que Allah donne avec les épreuves, cela dépasse des années-lumière ce qu'on peut avoir avec nos actions. D'où l'importance de watawasaw bis-sabr. Quelqu'un peut être affranchi, esclave, yatiman da maqraba, miskinan da matraba, comme on l'a dit, et avoir iman, et faire de bonnes actions, mais si la personne n'a pas sabr, elle ne sait pas faire preuve de patience, son iman est en danger. Et on va exposer ça sous trois points, très rapidement. Trois pièges de Shaitan. Premier piège de Shaitan, une personne qui fait beaucoup d'ibadah, qui est namazi, vraiment quelqu'un de, en guillemets, pieux, tout le temps masjid, alhamdulillah, rien à reprocher, mais par rapport à son akhlaq, dans son comportement, c'est une catastrophe ambulante. C'est un goujat, c'est quelqu'un qui vraiment a un comportement exécrable. On n'arrête pas de faire des reproches, et ça, wallahi, il y en a. Il y a des gens vraiment bien, par la banne, la barbe, kafni, boulet, tout, mais essayer de l'aborder, regarder son comportement et tout, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est en général, en voyageant avec quelqu'un, on connaît ça. J'ai vu un riwayat une fois, un tabi'in qui disait à quelqu'un qui faisait ses éloges. Il dit, oh, cher, vous êtes le plus grand, le meilleur. Il dit, pourquoi tu dis ça? Tu as voyagé avec moi? Il a dit, non. Est-ce que tu as déjà fait une transaction avec moi pour voir comment je réagis? Est-ce que je suis honnête ou non? Il dit, non. Tu fais trois affaires. Il dit, est-ce que tu m'as déjà vu en colère? Est-ce que tu m'as déjà vu dans une situation de crise pour voir est-ce que je me maîtrise? Ou alors, quand je suis en colère, même si j'ai un grand soufi tout le temps, comme en colère, là, il explose, il tape toutes mes cris, toutes mes yeux, le moment, le papa, la génération, tout. Là, on oublie tous les principes. Il dit, tant que tu n'as pas vu quelqu'un, tu n'as pas voyagé avec quelqu'un, tu n'as pas travaillé avec quelqu'un, et tu n'as pas vu sa réaction face à un conflit, on ne peut pas mettre une étiquette fixe, sur une personne. C'est une petite parenthèse. Donc, alors, premier piège de Shaitan, cette personne, ibadat, ok, mais pas de akhlaq. Et cette personne, elle se sent supérieure, elle a l'impression que je suis le meilleur, et toutes les autres personnes, ils sont dans la paix. Donc, tous les autres, c'est des presque kafirs, c'est des fasiqs, ou c'est des munafiqs. Ça, c'est un piège typique de Shaitan. Il ne faut pas oublier que le prophète me dit que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance au jour de Qiyamah, ce sera quoi? Khuluqul Hassan, le bon comportement. La chose qui sera la plus lourde dans la balance, ce sera le bon comportement. Et le prophète me dit que la personne n'a pas atteint le iman, quelqu'un dont les voisins n'arrêtent pas de se plaindre ou qui ont des taclis par rapport à cette personne. Comprenez bien que c'est un tout, le ibadat n'aura sa valeur qu'à partir du moment où il y aura avec lui akhlaq. L'autre cas de figure, quelqu'un qui a un comportement, subhanallah, exceptionnel, remarquable, c'est quelqu'un d'une grande générosité, qui aide, qui donne l'argent à masjid, qui donne l'argent à madrasa, quelqu'un il sort d'un autre pays, il a besoin de l'aide, il donne sans compter. Et ça, j'en ai connu des cas comme ça aussi, mais il ne vient pas à masjid. Mais la personne sera là, elle ne vient pas à part de Ramadan. Pour l'ibadat, c'est pas trop son affaire, mais elle a un grand cœur. Et le piège de Shaitan, c'est quoi? Il fait dire à cette personne, ce qui compte, c'est dedans les propres mots. Non! Certainement, quand dedans c'est propre, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça aussi, c'est la paix de Shaitan. La personne peut avoir un grand cœur, mais pas de ibadat. Dans un verset, Allah Ta'ala dit, en parlant du bon comportement, et à la fin, Allah Ta'ala dit, wal amalu salihu yarfa'u. C'est-à-dire que le bon akhlaq, c'est quelque chose. C'est comme si là, on a le akhlaq, le comportement exemplaire du musulman. Allah dit, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ et les bonnes actions élèvent. C'est-à-dire que vous voyez un bon comportement, s'il n'y a pas de bonne action, c'est ce bon akhlaq ne vous sera d'aucune, mais strictement d'aucune utilité. L'autre cas, et c'est le dernier, la personne ibadat 100%, alhamdulillah. Comportement exceptionnel. Mais face à l'adversité, dans les épreuves, dans les malheurs, dans la maladie, dans la difficulté, cette personne peut prononcer des paroles qui peuvent lui faire perdre son iman. Pourquoi moi? Moi, je suis quelqu'un de bien, je donne une sadaqa, je fais namaz. Oh Allah, il n'est pas juste ce genre de choses. Il y a que tant qu'on n'a pas assimilé ces trois choses, ibadat, akhlaq, et se regarder soi-même comment gérer les moments difficiles de la vie, on ne parviendra pas à ce aqaba, au chemin sinueux, tortueux et difficile qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend donc que notre iman, notre islam, c'est un tout. Et ce n'est pas terminé là. Parce qu'après la taille, c'est une autre qualité. Et qui, de la même manière, qui s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Et ça aussi, c'est un gros problème. Et des gens comme ça, bien, dans les ibadats, ils sont corrects, mais ils n'ont pas de pitié pour leur prochain. Le cœur est dur dans le travail, pas de pitié pour le travailleur, il n'y a pas de raham, il n'y a pas de césar, il n'y a pas de tanajul, il ne recule devant rien. Hein. Et dans ce verset, on comprend bien qu'il ne sera musulman complet qu'avec ses qualités. En plus de tout ce qu'on vient de citer, on ne va pas répéter, ils s'enjoignent mutuellement. Ils ont ces qualités et ils font da'wah également avec ces qualités. Ils font également, ils encouragent les gens à avoir ces qualités, hein, être correct, être miséricordieux. Miséricorde, c'est un terme plus Rahman pour Allah Ta'ala. C'est-à-dire agir avec compassion avec tout le monde, que ce soit les proches, les parents, priorité, les proches, mais également sa'irul bashar avec n'importe quel être humain. Avoir un bon comportement et avoir de la pitié, de la compassion pour n'importe quel être humain, mais également les animaux également. On connaît différents hadiths de lesquels le Prophète a encouragé à bien agir envers même les animaux, l'histoire de cet homme qui a donné à boire un chien qui allait mourir de soif. On connaît ça, c'est des hadiths très connus. Et lorsqu'on parle d'être correct avec tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. La relation qu'on doit avoir avec quelqu'un qui n'a pas iman, dans les affaires, dans le comportement, dans les échanges, dans les relations de voisinage, on doit agir avec lui comme on agit avec un musulman. Comme on a dit, il y a l'adina mon aoufou bin, l'uqoud. Respecter les engagements, les promesses. Les commentateurs disent que quand on dit aoufou bin, l'uqoud, respecter les engagements avec tout le monde. Musulman comme non musulman. C'est pas que je fais des promesses, ah, dis un cas, toi, c'est pas grave, hein, si m'a volé son argent, ou je l'ai trompé, c'est pas grave, de toute façon, c'est un mounzal en jahannam, na'ouz billah. De quel droit on a. Qui a ce aql, qui a cet esprit aussi petit pour penser qu'Allah ne vous punira pas pour le bon fait sur quelqu'un qui n'a pas aimé. Par exemple, quand il dit Iktaqi da'wat al-mazloum, craignez la malédiction de l'opprimé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que n'agissez pas ensemble, n'oppressez personne, attention, ne faites pas le bon, car laysa baynahu wa bayna Allah hijab, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de séparation entre l'opprimé et Allah Ta'ala. C'est-à-dire même un non-musulman qui vous maudit, à qui vous avez fait du tort, cette malédiction est entendue et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les relations de la vie de tous les jours, notre comportement doit être exemplaire. Et non pas faire comme certains, dans certains pays, il y a eu certains extrémistes, intégristes, quoi que ces mots, je n'aime pas les utiliser, hein, qui étaient prêts, qui déclaraient que les kafirs, leur bien est halal, pour nous on prend leur bien, on s'aoude billah. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est décédé, son armure était en gage chez qui? Chez un Yahoud. Chez un juif. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'il y avait des commerçants musulmans aussi, notre prophète a fait mu'amala avec un juif. Ce n'est pas interdit. Et quand on a un engagement, ben, cela implique le respect de la personne. Ça, c'est dans la vie de Niaoui. Mais attention. Quand on parle de akhirat, et la personne ne pourra nous reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas de communautarisme ou de vertu d'esprit qui est mis en cause là. Dans la vie du dunya, on doit avoir un comportement exemplaire avec le musulman comme le non-musulman, sans différencier. Mais lorsqu'on parle du monde, quand les yeux finissent fermés, quand on parle de qabar et de akhirat, on n'a pas le droit de dire que tout le monde est égal, tout le monde ira là, wallahi l'azim. Et ça, c'est un grand danger. Le Coran a dit, « La yelhaakum Allahu an illadina lam... » La yelhaakum Allah... Dans le surat al-Mujadala, je vous dis, « La yelhaakum Allahu an illadina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqtitu ilayhim. » Que une personne qui ne vous a pas fait du tort, qui ne vous a pas expulsé de chez vous, qui n'a pas mal agi envers vous, on parle de koufar, là, des gens qui n'ont pas la foi. Ces personnes qui n'ont peut-être pas iman, ne sont pas musulmans, mais ils ne vous ont jamais fait du tort. Mais Allah dit, la yelhaakum Allah, Allah ne vous a été, dit pas d'agir correctement. Au contraire, Allah dit, an tuqsitu, que vous fassiez preuve de justice avec eux. Agissez correctement, car Allah n'aime pas les gens injustes. Ça, c'est dans les relations, c'est cette terre. Dans la terre, on respire l'oxygène, et on mange la nourriture pour vivre. Ça, c'est dans le dunya. Mais quand les yeux ferment, quand on est dans le qabar, avec les anges qui posent des questions, quand on est dans le mahshar, là, on ne peut pas dire que tout le monde sera dans le jannah. Mais sinon, quelle différence entre quelqu'un qui fait 16 salats et quelqu'un qui fait autre chose ou qui fait rien du tout. Right? Donc, on comprenne bien. Dans ce dunya, le akhlaq du musulman avec le kafir doit être exemplaire. Comme le prophète l'avait. Mais concernant umur al-akhira, personne n'a le droit de dire que nous sommes tous des créatures de Dieu et nous allons tous au paradis. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a de le cœur. Oui, ce qu'il y a de le cœur, c'est le iman. Pas notre comportement, pas ce qu'il y a, notre manière d'agir, d'être bon vers les uns, vers les autres. Non. Parce que sinon, nous perdons les frontières entre Adiyan. Nous perdons la valeur de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous perdons Qulia, Yuhal Kafirun. Quand même, c'est des surahs de base de Tawhid qu'on refuse tout ce qui est en dehors d'Allah parce que cela impliquerait. Ça, c'est grave ce que je veux dire. Cela impliquerait l'acceptation dans le paradis. Et donc dire que la personne qui invoque autre qu'Allah est également de le vrai. Or, ce n'est pas le cas. Allah nous pardonne nos manquements. Donc, ces personnes qui ont ces qualités, qu'on ne va pas répéter, toutes ces qualités comme on a dit, eux, c'est Ashabul Maymana. Et on ne va pas commenter Ashabul Maymana, Ashabul Mash'ama, parce que ça, il y aura l'occasion. Ça, c'est trop long. Ashabul Maymana, les gens de droit. Les gens de la droite, ou là, c'est Ashabul Mash'ama, ceux-là sont des gens de la droite. Ahlul Iman, ceux qui ont Iman en Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors ceux qui ont cru en Jésus, en Isa alayhi salam à son époque, ou à Moïse, à Moussa alayhi salam à son époque, comme le Tawrat a été révélé pour eux, et le Injil pour eux, c'est comme les Sahaba, c'est les compagnons des Anbiya. Dans le Jannah, Inch'Allah, Allah seul sait, il n'y a pas de problème, t'as vu? Et sauf celui, non, ça c'est notre vie, ça dit autre chose, ceux-là sont des gens de la droite, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Très méchant. Il n'y a pas de traduction. Et ceux qui ont refuté nos signes, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, ceux qui ont refuté nos signes, ce sont les gens de la gauche, عَلِيْهِمْ نَارُ مُؤْصَلَا, pour eux, un feu, le terme exemple مُؤْصَدَا, c'est مُغْلَقَا, c'est un feu qui se refermera sur eux. C'est un feu qui se refermera sur eux. Et donc, à la fin du verset, Allah il nous montre bien qu'il y a deux catégories de personnes, mu'min et kafir. Donc, c'est cela qu'on doit bien intégrer, qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre Ahlul Iman et Ahlul Kufr. Et à nous de faire le maximum pour développer les qualités de Ahlul Iman, comme on l'a cité, et d'inviter les Ahlul Kufr et Iman. De faire en sorte que les gens qu'on fréquente, qu'on les donne da'wah. Hein, comme on dit, on le répète très souvent, il y a des gens avec qui on a de bonnes relations, des collègues de travail. S'il leur arrive un malheur, ils tombent malades, on va les rendre visite. On n'aimerait pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. Si un jour ils nous annoncent que voilà, j'ai une tumeur, j'ai un cancer, on est attristé pour eux. S'il dit que mon enfant a eu un accident et tout, et il est dans l'hôpital, on va avoir. C'est comme si c'est notre propre enfant. C'est-à-dire que vous avez mal pour lui dans les épreuves de ce dunya. Mais si on était intelligent, on pensait que c'est mon ami là, mais après la mort, c'est quelqu'un qui sera pour l'éternité de Jahannam. Alors c'est de notre devoir d'inviter ces gens vers le haq. Et il n'y a pas besoin d'être un grand alim, d'être un grand cheikh al-hadith pour dire quelques paroles de haq. Si on est sincère, le haq, ça touche le cœur, ça. Contrairement au bantil, à la fausseté, il faut un grand discours, il faut de l'argent, il faut des hôpitaux, il faut des écoles, pour convertir un village affamé, il faut des moyens. Parce que le bantil ne se propage pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de frère d'Allah dans le bâtin. Alors que pour le musulman, Allah Ta'ala a promis, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya. Le mu'min, il a l'aide d'Allah. Donc une parole dite avec sincérité, Allah il peut mettre une telle baraka dedans qui peut ouvrir le cœur de quelqu'un. Il y a combien de personnes qui se sont converties par une petite parole ou un geste akhlaq hasan, et que Allah il change la vie de cette personne, il enlève le burma, il l'amène vers nous. Qu'Allah nous accepte. Allah nous tawfiq de comprendre le sens de ce grand surat, la uqsimu bihadha al-balad, et qu'Allah nous protège de cette, pour résumer le surat, qu'Allah nous protège d'une richesse qui nous déconnecte de la réalité. Une richesse qui fait qu'on ne pense plus à Allah ou on se croit supérieur. Et qu'Allah nous donne ces qualités, nous protège de ces gens, les gens qui croient que personne ne le voit, il fait tant de péchés, personne ne le verra. Et qu'Allah nous donne par opposition les qualités de taqwa, que lorsqu'on accomplit une bonne action ou lorsqu'on a envie de faire un péché, qu'on soit toujours conscient qu'Allah nous voit, les anges inscrivent l'endroit, la terre, témoignera le jour de Qiyama, tout est inscrit dans le livre, les livres, quand on meurt, sont pliés et dans certaines versions sont sous le trône d'Allah. Et puis le jour du mahshar, les livrets sont distribués. Qu'Allah nous fasse comprendre le qadar, qu'Allah nous fasse comprendre le qadar, l'importance des biens, de la santé, de manière générale, des manques qu'Allah nous a accordés. Et qu'on demande, wa matti'ana Allahumma yadwasa biasma'ina wa absarina wa qulubina, biasma'ina wa absarina abadam abqaitana. Et qu'Allah nous donne toujours, qu'on garde ce ni'ma jusqu'à notre mort. Que jamais Allah nous reprend la vue, ou qu'il nous reprend la parole, ou qu'il nous reprend n'importe quel bienfait physique, que jamais qu'on soit atteint d'une maladie, on perd un bienfait de la part d'Allah. Et pour ça, il faut faire qadar, il faut prendre considération, remercier Allah pour ses bienfaits, et utiliser ces membres-là uniquement dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous donne les qualités pour grimper sur cette montagne sinueuse, al-aqaba, qu'on puisse lutter contre Shaitan, lutter contre notre nafs, et avoir les qualités, donner dans le chemin d'Allah, aider les pauvres, aider les personnes en difficulté, avoir le iman sahih, hein, faire preuve de patience, et être bon et bienveillant envers les gens, et qu'on soit parmi les ashabul maymana, ceux qui recevront leur livre de compte, le jour de Qiyama, de leur main droite. Et qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Ils vont prendre leur livre de compte dans la main droite, ils vont retourner vers leur famille, ils vont dire, ha umuqra'u kitabia, lisez mon livre, regardez mon livre. La personne qui recevra son livre de compte dans la main droite, elle sera fière. Et cet exemple, on dit tout le temps, c'est pas comme un bachelier, hein, c'est pas comme un marmaille, elle fait la terminale, la gestion, bah, il montre, ah, gagné, résultat, mon diplôme. C'est des milliers d'années-lumière de ça. Parce que quand vous avez votre bac, vous êtes content. Ça constate, c'est la consécration de 16 années d'études. Mais après, au deuil, puissance, c'est encore devant. Mais quand quelqu'un a eu son livre de compte dans la main droite, c'est 70, 80, 90 années de sa vie qui a été récompensée. Et quand on a le livre de compte dans la main droite, quand ça touche votre main, c'est fini là, vous êtes parti là. Bon, c'est là, comme il faut, Inch'Allah, le mizan, c'est bon, et dans le Jannat, Inch'Allah, sans difficulté. Qu'Allah, parce que, comme nous sommes réunis ici, un jour dans le Jannat, nous serons réunis, hein, dans ce hadith, il dit que dans le paradis, les gens, ils vont se rappeler des difficultés, des moments passés de la dunya, qu'Allah nous réunisse comme nous le sommes régulièrement ici, dans le Jannat, dans le Firdaus, dans le Hissab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.